Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Le printemps des poétesses. Le printemps des poétesses. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, épisode spécial, le printemps des poétesses. Avec Maria, Amalia, Sophia et Morgane. C'est parti. Surgeon et autres pousses, en compagnie de Maria Kakodjiani et Amalia Ramanan Kiraina, aux éditions Exé.
À un moment donné, est sortie l'idée, et pourquoi pas les plantes finalement. Et Amalia nous a rejoint un peu plus tard.
Oui. Moi, je suis arrivée en cours de route, elles avaient déjà défriché le terrain. Ça a été vraiment une interaction entre leurs textes et puis déjà un travail que je faisais précédemment sur, là, sur les plantes, en fait. Ça s'est construit au fur et à mesure.
Amalia, elle est arrivée sur le point des pieds, comme ça. Elle n'est pas trop dérangée, parce qu'elle arrivait dans un terrain où d'autres travaillaient depuis longtemps. Ça faisait plus qu'un an, en fait. C'est un travail de longue durée. C'était le genre de plante qui ne veut pas prendre trop de place ni trop de lumière. Donc, elle est arrivée comme ça. Et je dis ça pourquoi ? Parce que c'est un imaginaire qui nous a beaucoup travaillé. C'est que comme les plantes, il y en a qui ont besoin de beaucoup de lumière pour pousser. D'autres qu'il faut les laisser tranquilles. Il y en a qu'il faut tailler. D'autres qui poussent toutes seules. D'autres qui drageonnent la terre. C'est devenu un imaginaire pour nous, pour nos relations. Et comment est-ce qu'on fait pousser ensemble. Du coup, le centre un petit peu devenu comment faire commun, comment faire jardin ensemble, sachant que chacun, chacune pousse différemment et chacun de nos créations, ils ont des besoins différents en fait, comme dans un jardin. Et on a même des textes qu'on a arrachés qui sont plus là, carrément. Comme on a des textes qu'ils ont trouvé comme dans un jardin, une place très vite évidente que sa place est là, d'autres qu'on a dû déplacer beaucoup. Et donc Amalia, c'était quelqu'un, c'était une plante qui avait besoin au début qu'on la laisse pousser très délicatement à l'ombre. C'est une plante que plus tu la laisses après, voilà, elle s'est mise à écrire. Et je pense que voilà, c'est aussi une, ça fait partie de notre histoire en fait, d'apprendre ouais, les rythmes de chacun, la manière dont il pousse ou elle pousse.
On a pris le temps aussi de prendre le temps, ce qui n'est pas évident non plus. On a appris à se connaître en fait en faisant le livre en même temps. Donc c'était très intéressant comme partage du commun, parce que tout n'était pas du tout lisse et on ne se connaissait pas spécialement avant. Donc on a trouvé nos points communs et on a réussi à évoluer avec ça. Voilà.
Vous parlez du principe de la collection, de collectionner. Et donc, moi, c'est vrai que je l'ai vraiment vécu comme ça, cette lecture, comme une collection de portraits, que ce soit de plantes, mais aussi de vous, que l'on découvre par l'écriture ou par le dessin, ou par le dessin et l'écriture. Et il y a quelque chose d'extrêmement sensible et à plusieurs endroits, en fait, de lecture de ce fait de ces portraits. C'est qu'on va avoir une première image qui va nous venir immédiatement rien que par le nom, en fait, de la plante. On va jouer un petit peu comme ça au fur et à mesure du livre avec une sorte de personnification, mais pas toujours, où on a l'impression que c'est la narratrice qui parle parfois, et non plus la plante. Et à l'intérieur de toutes ces narrations, en fait, on nous raconte aussi l'histoire du monde, des sociétés, des actualités. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, qui résonnent avec, évidemment, la situation aujourd'hui, l'urgence climatique. Et c'est vraiment un travail, enfin, multidimensionnel, en fait. Et je me demande, enfin, voilà, on est vraiment au cœur de la création, mais je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui vous est propre, ces différents endroits, en fait, de compréhension ? Où ça a été partie prenante du projet de se dire, il y a nous, il y a les plantes et il y a le monde.
C'est à la fois, comme ça on explique aussi un peu le livre, au même titre que je disais, les plantes, ils ont des besoins différents. On a aussi des formes extrêmement diverses. Donc il y a du poème, il y a de la narration, il y a un élan plutôt contemplatif. Il y a donc formellement le livre, il essaye d'être un multiforme dans son écriture. Moi, j'ai tendance dans mon écriture d'être souvent comme ça, mais c'est parce que moi, je pousse comme ça. Par contre, tous les textes, il y a des endroits où c'est pas du tout comme ça, il y a autre chose. Et c'est ce rapport à l'autre qui nous intéressait. Et d'ailleurs, il y a des choses, je pense que, bon, collectivement, pour nous, c'était une école, en fait. Et il y a eu des conflits. Quel est le rapport entre le jeu et le nous? Il y a des choses qu'on a fait ensemble. Donc, on a plusieurs voix parce qu'on est en train de le faire ensemble. D'autres où chacune, elle a fait dans un coin et on l'entend aussi. Comme dans un collectif où, voilà, on ne va pas faire ensemble tout le temps. En fait, c'est cette hétérogénéité qui, finalement, a pris corps petit à petit. Après, le fait de mélanger un peu tous les registres, c'est-à-dire de passer d'une métaphore poétique à la ZAD, enfin, c'est un peu des modalités que mon écriture elle a en propre dans d'autres domaines. Mais
où est la question pour moi politique, si on parle, elle est centrale, en fait, donc... On se la pose même plus comme ça, puisque pour moi, elle est au centre même du travail du dessin, le choix des plantes, les notices qui sont orientées, en fait, les notices orientées, donc non, on est bien en lien avec cette question-là.
L'une des premières choses qu'on a échangées tout à l'heure, c'était... peut-être un certain étonnement d'être invitée pendant le Printemps des Poétesses, là où pour moi c'était d'une évidence, je n'ai jamais questionné en fait la légitimité de votre texte dans ce festival, mais de se dire, de ce fait, c'est quoi pour vous la poésie? Si ce n'est pas forcément ce que vous avez fait.
En fait, on ne s'est pas posé la question de ce qu'on faisait. Est-ce que c'était de la poésie? Est-ce que c'était un essai? Est-ce que c'est un essai de jardinage, quoi?
Ouais, mais par contre, c'est ce que j'allais... je pense qu'il y a une plasticité de la langue qu'on le voit, donc qu'on peut dire, oui, la poésie, de toute façon, c'est une manière de rendre la langue plastique. C'est pas forcément le poème au sens strict, mais ça, c'est sûr qu'il y en a. Et puis, il y a ce que j'appellerais un trouble dans le genre, qui est constant... parce qu'on passe d'un texte à l'autre, on ne sait pas dans quel genre on est. Et donc, dans ce sens-là, je pense que, oui, c'est une définition possible de la poésie, au sens qu'elle n'est pas... C'est quand l'expression par les mots n'est pas mise dans des cases précises, mais elle est tout le temps dans quelque chose qui trouble les genres. Donc, c'est peut-être là, la poésie.
Mais ça me fait penser à une phrase qu'il y a dans la présentation des pensées, car ce qui nous force à penser est toujours un trouble.
Je l'ai volé de quelqu'un, je crois.
En tout cas, c'est magnifique. Mais ça donne en effet beaucoup de choses à penser.
Comment faire? Je surge, tu surges, nous surgeons. Les surgeons sont des pousses qui surgissent du sol, au pied d'un arbre, reliées à une racine et donc à un tronc commun, mais qui n'est pas toujours visible. Ramifications multiples s'ajoutent les unes aux autres et forment un groupe, un ensemble, un peuple. Ils surgissent du sol sans qu'on les programme ni demande. Elles semblent ainsi antérieures ou postérieures à ce qu'on considère comme une volonté. C'est sur le terrain de la politique que la pensée semble plus ardue. Il n'y a pas d'alternative. Voilà ce qui est devenu moins une narration qu'un climat narratif. Nous voulons changer le monde, pendant que le sol qu'on piétine a tellement subi qu'il n'arrive plus à boire l'eau de la pluie. Qu'en est-il de nos puissances et qu'en est-il de nos forces, là où le rapport de force penche si souvent vers nos défaites? Comment agir sur le conflit avec qui? Il est de moins en moins sûr que la politique concerne uniquement des agents dotés d'une volonté. Nous ne sauverons pas les plantes, les rivières, les forêts, nous nous sauverons avec eux. À l'heure où les grands mouvements populaires manquent parfois des énoncés, celui de l'expérience de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a permis de cueillir... C'est lui que l'expérience a permis de cueillir semble important, entre guillemets. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Voilà un énoncé qui pourrait peut-être marquer une époque, relancer les saisons, les printemps des peuples, comme celui des prolétaires de tous les pays, unissez-vous avant lui. Celui-là s'adressait à un « vous » et laissait suggérer une certaine extériorité de la prise de parole par rapport à son adresse. Surgeon, c'est la puissance végétale de pousser, mais aussi quelque chose comme un verbe actif et rebelle, surgeons, surgeons-nous. Cette forme étrange qui dit « nous » a subi beaucoup de désastres. Aujourd'hui, malgré la catastrophe écologique et sociale, nous croyons de moins en moins aux puissances qui disent « nous ». Et aux expériences qui vont avec, qui font avec. Et nous, N-O-U-E-S. Voilà qui pourrait être considéré comme une faute d'orthographe. On a traité des forêts comme de nos écoles, telles des champs de monoculture soumis à la rentabilité, au culte du mérite, à l'évaluation perpétuelle. On a géré les hôpitaux et les universités comme des entreprises, et les auto-entrepreneurs comme une armée de réserves à côté des chômeurs. On a produit des tomates hors sol, en leur apportant des nutriments de synthèse, et des créations artistiques tout aussi hors sol, réadaptables, exportables n'importe où, flexibles et élastiques pour entrer dans des cases des dossiers de subventions et des programmations. Quand quelqu'un nous demandait ce qu'on pensait de tout cela, on répondait que ce n'est pas de notre faute. On sait ce qui se passe, mais on ne sait pas quoi faire. Et nous, N-O-U-E-S. Une « nous » est un fossé herbeux en pente douce, aménagé en naturel, qui recueille des eaux. Sans nous, les villes s'exposent aux inondations. Sans nous, les zones humides se font rares, la terre sèche, même émue. De cette forme étrange qui dit « nous », de ces histoires et de ces luttes, nous sommes les enfants illégitimes, monstrueux et fabuleux, faits de terre et de puces électroniques, hybrides, chimères. Nous sommes le travail féminisé, précaire, non déclaré, végétable, mal formé, épuisé, parasite. Nous sommes les restes de leur indice de performance. Nous sommes les questions à toutes leurs réponses. Nous sommes les sols glissants d'une grammaire où la police assassine. Nous sommes les herbes folles dans les pelouses patrimoniales. Ce qui n'était que pollen devient fruit épineux. Puisse-t-il en être de même de nos créations et de nos pousses? Qu'elles dansent et dérangent, qu'elles sèment le trouble et la colère, et s'y dégustent avec attention, sans essuyer les pieds avant de passer à table. Surgeons-nous.
Ce qui m'a tout de suite interpellée, c'est le commun faire. Ce principe en fait, de faire commun autour de la nature et des savoirs et des manières en fait, de parler des plantes et pour relier en fait, nos deux univers, parce qu'on a une tendance quand même à nous séparer. C'est-à-dire qu'il y a nous et la nature. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'impliquer la survie, de montrer en fait qu'on est utile l'un à l'autre, on est nécessaire l'un à l'autre? Cet endroit de commun, c'est à cet endroit-là pour nous lier en fait.
Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de comprendre mon rapport à la nature, essayer de le pratiquer de la façon dont je sais le pratiquer. À travers un travail artistique, en l'occurrence, n'étant pas du tout quelqu'un qui sait jardiner, qui... Enfin, je suis urbaine, je plante des graines dans des pots, j'ai tendance à aimer les plantes exotiques, j'ai beaucoup de travail à faire. Et donc j'ai essayé, à travers ça, de comprendre un petit peu... en quoi mes relations avec ces plantes peuvent me donner une prise avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Et c'est aussi une question d'histoire qu'on retrouve aussi Maria et Marie, quelles ont été notre histoire au plus proche de nous. Et comment est-ce qu'on négocie avec cette question de... On fait plus que négocier avec cette question de nature, qui ne veut pas dire grand-chose en soi. Voilà. Moi, je travaille pour ça, à travers mon dessin, à travers le choix là de jouer avec la botanique, avec l'histoire, essayer de retracer un petit peu... C'est très anthropomorphique, finalement, quand même. Mais j'essaye de trouver quelque chose, de trouver des façons de faire qui me permettent de me projeter un petit peu dans cet espace en danger.
Ce que je peux dire, c'est que encore une fois, c'est sûrement pas un livre d'experts, donc c'est pas des donc dans ce sens-là, c'est pas du tout un livre qui donne des leçons comment faire telle ou telle chose au jardin, parce qu'on n'est aucune. D'une certaine manière, j'ai envie de répéter, c'est avec nos troubles qu'on l'a fait. Et donc, c'est une des choses qu'on dit. Donc, nos troubles aussi dans le rapport au végétal, dans le rapport au multiple, qu'on n'est pas que les seuls acteurs. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on projette chez les végétaux? C'est que nous, est-ce que c'est une vraie relation? Est-ce que c'est une simple projection? C'est ce type de questionnement. Et j'ai envie de dire que, à la différence d'Amalia qui est venue un peu plus tard, c'est vrai que moi et Marie, on écrivait des textes en même temps qu'on faisait nos expériences et qu'on apprenait. C'est-à-dire, t'as des insomnies, tu fais quoi? Je prends de la mélisse. Ah, t'as de la mélisse. Moi, j'allais me promener, j'ai trouvé de la mélisse, j'ai la ramenée au jardin. Donc, on était en train d'expérimenter ce qu'on faisait avec la terre et ce qu'on allait écrire en même temps. Donc, ça, c'était vraiment un échange qui. On a appris, moi, j'ai appris des plantes avec elle, où on a fait des tisanes pour voir ce que ça donne. Et je pense qu'il est dit à un moment donné dans le livre que ce qui nous représente le plus, c'est les simples, au sens où c'est quand même des citadins qui essayent de la manière la plus simple à reprendre contact avec ce monde dont on était séparés et qui a affaire avec la médecine, qui a affaire avec ce qu'on mange et qui a affaire avec la beauté. Et qui est essentiellement politique. Donc, on va retrouver tous ces éléments un peu partout dans nos textes, en fait. Donc, oui, s'il y a des recettes des cuisines où on googlise, s'il y a même des endroits drôles, parce qu'on fait souvent ça, ça sert à quoi ça? On fait Google nous sort toute une liste des propriétés, et on est en train de traiter une plante comme si c'est un produit dans une pharmacie. Donc, il y a un écart même de oui, on rigole contre nous-mêmes à ce moment-là, ouais. Parce que c'est pas comme ça qu'on apprend une plante, en fait. Donc, presque, on défait aussi nos manières d'approcher les plantes. Et je pense qu'Amalia l'a dit, ce livre n'aurait pas pu se faire sans la durée. C'est un livre de durée, en fait. Parce que le comment, ça ne se fait pas sans durée. Donc, c'est par la durée qu'il y a des choses ont poussé, quoi.
Un élément qu'on entend, enfin qu'on lit très rapidement et qu'on a pu entendre, il me semble, c'est la question de la narration. Et ça, c'est vraiment un endroit qu'on questionne beaucoup ici, de se dire comment en fait se raconter des histoires, c'est vraiment le cœur même du principe de la politique, en fait, se dire que c'est parce que nos récits, parce qu'on transmet, parce qu'on imagine, ce qu'on rêve, nos utopies, etc. C'est par là, en fait, que les choses peuvent changer. Et à cet endroit-là particulier, en fait, vous parlez de climat narratif. Et en fait, on va retrouver un langage bien particulier tout au long du livre qui va toujours, en fait, jouer sur ce fameux trouble de langage commun, en fait, aux luttes et à la botanique. Le lien à la littérature, à la narration, il est très fort dans le livre. Donc, quelle est vos croyances face à cette narration qui pourrait nous sauver?
Est-ce que je vais juste lire un petit bout de texte. C'est sur l'Achille millefeuille. Achille ou l'herbe du soldat. Achille, imaginons un autre récit, mille autres récits. Achille, aide-soignant, accompagnant, travailleur social sur le champ de bataille, ami et amant, et qui, en plus de sa semaine, doit aller réclamer le samedi un salaire correct devant l'attente des patrons, pourquoi pas. Un vieux héros au bord de l'andropause et une vieille amazone incroyablement belle, une rencontre.
J'ai une obsession depuis des années avec le « il n'y a pas d'alternative ». C'est un truc avec lequel je me cogne tout le temps, parce que voilà, je pense que c'est pas qu'on n'est pas en colère avec ce qui se passe, c'est que on n'arrive pas à avoir des narrations positives et que pour l'instant presque on arrive à avoir quelques éclats, mais pas encore. Alors, ça se demandait si on doit avoir le grand livre comme on a eu avant, parce qu'il y a eu une époque où il y avait le grand livre, la grande narration, il fallait juste l'appliquer. Et on est passé de ça à, hein, il n'y a pas d'alternative, c'est ce climat narratif qui ne laisse rien. Donc moi, oui, c'est à la fois là où je localise en partie le problème, parce que je ne pense pas que les gens ne sont pas contre ce qui se passe, et qu'on n'est pas en masse contre ce qui se passe. Je pense pas qu'on a besoin d'une adhésion que... Donc, et ça fait des années, en fait. Ça date pas de cette année du mouvement contre les retraites, quoi. Oui, je pense qu'une partie de la lutte, c'est en termes de narration, et c'est ce qui nous manque, c'est ce qu'on essaye de faire surgir. Et c'est pour ça que sur le moment, j'ai eu cette idée des climats narratifs, parce qu'un climat, comme le mot le dit, eh ben, il va achécher. C'est pas que le poème ne surgit pas, mais le climat, il va faire que le poème, il meurt, en fait, parce que le climat, il est pas bon. Donc, quand le climat narratif empêche de surgir en ce moment, c'est pas qu'on n'a pas des gens qui sont des grands poètes, ou des gens qui ont des idées, ou des gens qui n'ont, voilà, et c'est qui ont le climat narratif. Voilà. Pour moi, c'était parlant de presque, ça, c'est une image, donc c'est un imaginaire déjà. Donc pour l'instant, moi, j'arrive pas à faire une histoire. Me pose tellement la question comment on raconte des histoires que j'essaye par petit, mais pour l'instant, pour moi, c'est un impossible.
C'est extrêmement passionnant, hein, cette affaire de climat narratif. Là, je viens de le voir en t'écoutant d'une autre manière, donc de cet endroit où ça ne peut pas, en fait, éclore. Suite au climat narratif, mais c'est incroyable.
Et si la terre manque d'eau ?
Mais oui.
Et si, enfin, donc on a en deux lignes, ouais, on a un imaginaire. Et je pense qu'on essaye beaucoup de voilà, il y a des où là c'est Achille qui n'est pas un soldat mais qui est au bord de l'andropause. Bon, c'est quoi l'andropause ? Bah, c'est au lecteur d'aller voir, mais qui va demander au patron. Voilà, c'est très peu de choses. Finalement, on n'a pas une histoire entière, mais on a un brin. On dit brin, je ne sais plus.
Oui.
Mais c'est ce qui va être à chaque fois, à chaque portrait, en fait, il y a des sens différents. En fait, que ce soit des sens et des sens, et tout ce jeu-là de langage et d'endroits de perspective, ces endroits de perspective de compréhension, en fait, ça commence déjà à développer des imaginaires qui restent assez étriqués sous ce climat narratif. Je me prends au jeu de faire ces métaphores, mais il y a un côté de se dire, en fait, c'est des textes comme ça qui, je pense, peuvent nous permettre de sortir de nos zones de confort et d'étirer un peu nos imaginaires, en fait. Et que petit à petit, peut-être que grâce à ça, en fait, le climat sera moins lourd et que des nouveaux futurs vont nous arriver. Enfin, en tout cas, je vois pas d'autre solution que d'aller et de prendre ce temps-là que heureusement pour nous, vous avez eu, de nous mettre sur la voie petit à petit. Mais quand on sort de lecture d'essais, par exemple, comme c'est beaucoup mon cas, et qu'on lit votre livre, il y a quelque chose vraiment de très reposant. Et c'est peut-être un terme bizarre, un petit peu troublant, mais il y a quelque chose de... En fait, on a l'esprit peut complètement, en fait, partir sans limite. Moi, j'imaginais beaucoup les plantes se mettre à parler, mais ça doit être mon historique avec Fantasia. Les pensées qui parlent, elles m'ont envahi pendant tout un chapitre. Mais typiquement, hein, le passage des pensées, je le trouve mais absolument magnifique. Hein. Je l'ai lu plusieurs fois et il y a quelque chose qui donne envie, en fait, que ce soit réel, en fait, que ces discussions avec les pensées soient réelles, en fait, ou avec les fraisiers dont tu parlais avant la rencontre. La discussion avec les fraisiers devrait être réelle. J'adore ça.
Tu peux peut-être lire un mot des fraisiers ?
Bah oui. Hier, j'ai passé une grande partie de l'après-midi à travailler au jardin, après pratiquement 2 mois d'absence, s'il en avait besoin, et moi aussi. J'ai retrouvé quelques-unes de mes plantes qui avaient souffert, mais je me suis surprise à rire avec le fraisier. Je le savais envahissant, mais pas à ce point-là. Il était sorti du carré potager et, passé par-dessus les planches en bois, il avait commencé à avancer tranquillement vers d'autres terrains. Les fraises ont une texture fragile qu'on doit manipuler avec précaution, mais la plante, envahissante et robuste, semble presque à l'opposé de ses fruits. Nous ne créons pas à notre image. Voilà ce qui m'est apparu aujourd'hui en riant avec mon fraisier. Sinon, nous ne créons qu'avec nos symptômes. Qu'est-ce qu'un auteur ? Est-ce que le fraisier est auteur de ses fraises? Elles ne sont jamais identiques. Elles dépendent de la plante mère, mais aussi du sol, de l'arrosage, du climat, des gestes de jardinage ou pas, des puissances d'agir en conflit ou pas. Est-ce ma volonté? Je suis auteur de ce texte, alors que le fraisier ne le sera jamais de ses fraises, parce que je veux écrire un texte? Et si Dieu n'a pas voulu créer le monde? Fiction spéculative. Depuis longtemps, l'homme se voit au-dessus du fraisier, avec une part divine en lui, à la fois terrestre et extraterrestre. Il pense que son côté auteur correspond précisément à sa part divine, créatrice et capable d'éternité. Un auteur est un petit dieu avec quelques défauts. Que les autres, d'ailleurs, doivent accepter et comprendre pour protéger son génie, moi je. Hypothèse inverse. Et si être un sujet libre, autonome, rationnel, est une fiction, F-I-X-I-O-N, fixation, fiction, est une fiction toxique pour ce qui est de l'auteur? Et si la seule véritable fiction d'autonomie est ce qui choisit ses dépendances? Et si Dieu avait choisi de dépendre d'un monde plutôt que de rien? Ce sont des fictions. Le dieu des romantiques est un tapissier, ses lits de libéraux, nouveaux, un comptable. J'avoue, sauf quand j'écris un chèque pour régler ma facture d'électricité, payer mon dû, ce que j'écris ne correspond jamais tout à fait à ma volonté. Et quand j'écris, je ne sais jamais d'avance ce que je veux écrire. Je le trouve parfois sur les chemins, parfois non. Ça dépend du climat, des rejets de moi. Attendre et voir si ça donne quelque chose, autre chose que moi-même, ou pas. Bref, petite pensée jardinière d'hier.
Amalia, je te voyais regarder. Est-ce que tu avais envie de lire quelque chose particulier?
Une notice, peut-être?
Oui, une notice.
Parce que tu pourrais aussi peut-être nous parler après de comment tu as travaillé pour les notices et tout ça.
Oui, alors, très rapidement, donc moi, je fais des images. Et mon rapport au texte, les textes me permettent aussi de faire des images. Et j'ai joué avec l'idée de notice. En fait, mes dessins sont un jeu aussi avec les planches botaniques historiques. C'est un lien avec aussi... La classification des plantes, le fait que je joue aussi, les titres sont importants. Donc en fait, l'écriture et le dessin sont directement en lien. Et j'ai voulu faire des notices avec faisant figurer le nom vernaculaire, le nom latin, les dessins. Enfin, des plantes, qui sont des plantes qui peuvent être des plantes réelles ou des plantes hybridées imaginaires. Après, ça part un peu dans tous les sens. Et je voulais vous lire donc cette notice qui est un peu inspirée des planches botaniques, inspirée du discours botanique, inspirée de Wikipédia, des définitions. Voilà, inspirée de ce qui me permet de travailler, en fait. Aussi. Et je vais vous en lire une courte qui est le Begonia maculata. Le nom latin c'est Begonia maculata, son nom vernaculaire français c'est Begonia bambou. En fait c'est une plante d'origine brésilienne, comme la plupart des plantes qui viennent d'Amérique du Sud. Belle plante et mauvaise plante, I'm not exotic, I'm exhausted. Originaires d'Amérique tropicale, d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique de l'Ouest, les bégonias sont cultivés comme des plantes ornementales depuis le 19e siècle. Ils sont faciles à multiplier et à hybrider. Le bégonia hybride Maculata Tamaya, de son nom commercial, était accompagné dans les années 70 d'une légende inventée sur des origines sacrées amérindiennes pour faire vendre. Cette plante décorative et graphique à bas prix revient à la mode et fait fureur dans les jardineries. Son exotisme équivoque est vanté comme celui de la Monsterosa deliciosa, du pied d'éléphant, de l'alocasia ou du masque africain. Ces belles plantes sont parfaites pour faire des décors de jungle urbaine dans nos douillets intérieurs. Dans le même temps, d'autres espèces exotiques, d'abord reconnues comme belles et décoratives, deviennent des menaces à éradiquer. Des mauvaises herbes envahissantes, car pas très dociles. On veut des décors de jungle, mais un végétal docile, l'étranger à sa place, où rien ne dépasse, et jamais la beauté rebelle.
Alors, la question coloniale, elle est aussi très présente, en fait, dans le livre. Donc,
et la question des plantes et de la migration des plantes permet...
Et des dominations dont les plantes, ils racontent ces histoires. Donc, I'm not exotic, I'm exhausted. Et comme d'autres qu'on amène, il fait référence à un autre texte qui raconte comment on amène cette plante dans les jardins anglais. Parce qu'à l'époque, il est super et il est considéré comme exotique. Et maintenant, c'est la peste végétale. Donc il y a beaucoup de... Voilà, on a aussi cette histoire des questions coloniales qui est aussi tout aussi présente que les autres qu'on a évoquées.
Il y a la question de l'ailleurs aussi, parce qu'on parle beaucoup de nos jardins, de nos jardins des simples, des jardins des plantes, des petites plantes. Mais il y a aussi la question de l'ailleurs, de notre relation avec...
Et des racines.
Ouais. Voilà, les racines et les plantes venues d'ailleurs aussi.
Mais c'est sûr qu'à travers ces différents portraits, ces différentes collections, il y a énormément de thématiques qui sont abordées et beaucoup sur les luttes sociales, antiracistes, donc vous venez de le préciser, mais féministes, tu le disais un peu plus tôt, avec le fameux aussi « nous », N-O-U-E-S, qu'on n'entend pas forcément, mais que l'on voit très bien écrit, et qui crée de suite des endroits de langage, encore une fois, très intéressants. Merci beaucoup, Maria.
Merci à vous pour
merci
votre
beaucoup,
accueil.
Amalia. Le printemps des poétesses. Zaatar, avec Sofia Karampalifara, aux éditions Bruno Doucet. Une des choses qui m'a quand même assez frappée, c'est... Et je ne sais pas si c'est un peu maladroit de le dire, mais malgré tout, je vais le dire. Une extrême maturité, en fait, dans la façon dont tu parles de ton pays, de ta famille, de qui tu es, de tes désirs, de ton envie, ton besoin vital de liberté, etc. Quand est arrivée la poésie dans ta vie ?
Ce qui se passe avec, justement, avec cette maturité-là, je pense que c'est aussi le fait d'avoir vécu, du coup, la guerre de 2006 à 11 ans qui a fait que... je suis passée d'enfant à adulte très vite, c'est-à-dire en l'espace d'une journée, quand on a fui la guerre et qu'on a vu les bombardements, je pense que je n'étais plus enfant, en fait. J'ai grandi d'un coup, et peut-être qu'en grandissant d'un coup, il y a plein de questionnements qui sont venus à moi petit à petit, et je pense que j'y réponds toujours, mais je pense que vraiment, la guerre à 11 ans, c'est... C'est le point de départ vraiment de cette grande recherche de réponse face à la brutalité du monde et pourquoi en fait, juste pourquoi. Enfin, je pense que ça m'a plongée dans des questionnements philosophiques profonds. Et quant à la poésie, quand elle est arrivée dans ma vie, je pense que récemment j'ai ouvert la boîte noire. Je pense que la poésie, peut-être qu'elle était là, peut-être qu'il y avait des mots éparpillés en plein de langues dans ma tête, mais je pense que j'ai ouvert la boîte noire il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est il y a 2 ou 3 ans. C'est très récent, en fait.
Quelque chose peut-être aussi de l'urgence de dire. Est-ce que tu avais, ces dernières années, déjà un rapport aux mots, à l'oralité ? Mais finalement, peut-être que pour toi, elle est passée directement par l'écrit, quelque chose de très spontané, comme tu dis Il fallait que ça sorte, quoi.
Moi, j'ai toujours été une personne très silencieuse dans mon coin, très tranquille, très sage, sous les arbres à lire. Et je pense que je n'ai pas vraiment parlé pendant toute ma vie, en fait. Je pense que j'ai commencé à parler, pareil, ces 2-3 dernières années. Je pense qu'il y a vraiment eu un truc où je me suis rendu compte du fait qu'il fallait que je fasse la paix peut-être avec mon passé pour pouvoir vivre et pas juste survivre. Et je pense qu'à ce moment-là, les mots ont commencé à sortir un par un de cette boîte et à s'aligner sur le papier de manière complètement rapide et tellement rapide, si urgente, que finalement, oui, j'écris Zaatar en 2 semaines. Donc, il y a eu une explosion dans le bon sens du terme, cette fois-ci, mais de mots, et de mots couchés sur papier, et bah, je suis contente parce que ça fait du bruit, donc je suis contente que je sois là ce soir et que les mots, en fait, passent dans ce micro, dans ses oreilles, je suis vraiment heureuse.
Mais c'est vrai que on sent dès le début, enfin vraiment, on est tout de suite en fait plongé dans la puissance que tu mets dans les mots, la poésie, les lettres, les recherches en fait qui vont d'une certaine manière parfois te tomber dessus. Enfin, on entend qu'il y a quelque chose aussi de ça vient très naturellement à toi en fait, cette écriture, cette façon en fait de dire comme ça, d'écrire, de lâcher sur le papier, et tu vas nommer énormément de fois en fait le poème, le fait d'écrire, le fait de dire, ces mots là sont vraiment inscrits dans ta poésie en même temps que ton histoire familiale, que l'histoire du Liban, et je me suis dit là, on est vraiment, t'es vraiment en train de nous dire que ta poésie est ton arme politique. C'est vraiment ça, en fait, de le nommer dans ton intimité et dans la grande histoire, c'est de dire ma forme poétique est politique.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand ton état t'abandonne, parce que c'est le sentiment que j'ai par rapport au Liban, parce que quand ton état ne te protège pas, et qu'au contraire, c'est une scène de... C'est une scène de violence permanente, parce qu'il n'y a pas que la guerre. Nous, on a eu aussi, on a assisté, enfin, toute notre enfance, en fait. Donc, nous, mais aussi celle de la génération de nos parents, et puis, enfin, moi, mon père, dans les années 80, il y avait la guerre civile libanaise, donc aussi des violences. Aujourd'hui, le système politique sur place, c'est toujours les personnes qui ont donc des milices. Donc, c'est les élites dirigeantes aujourd'hui ont des milices, et c'est les milices qui se sont affrontés pendant la guerre civile, finalement. Donc, j'en veux à mon État. Et moi, j'ai grandi sans État. Et pour moi, mon État, ça a toujours été les mots. Je me suis toujours sentie en sécurité dans les mots. Pour moi, c'était... je sortais de mon quotidien dans le sud du Liban, parce que j'ai grandi dans le sud, pas très loin de la frontière avec Israël, donc vraiment une zone tendue, je sortais de ce quotidien en lisant. Et petit à petit, c'est passé de la lecture à l'écriture. Et pour moi, la poésie, c'est mon état, en fait. C'est ma nationalité, c'est tout. Enfin, il y a beaucoup plus de sens dans ma poésie que sur mon passeport.
Quand donc tu débutes ton livre... en nous plongeant dans ton histoire familiale. Donc, on découvre ton père, ta tante, ta grand-mère, qui vont être vraiment trois figures très importantes du livre, qui vont revenir souvent et qui vont, on le sent en fait, c'est pas comme si tu leur devais quelque chose, mais tu te dois de les porter. On sent qu'il y a ça. On sent que tu veux les garder en toi, dans ton écriture, et que c'est par elle et lui, en fait, que... tu as l'identité que tu as aussi aujourd'hui. Donc ton père qui est dans la résistance, enfin qui milite pour le Liban libre laïque, ta tante qui décède avant, à 18 ans avant de voir la mer alors que c'était son plus grand rêve, et ta grand-mère qui va, et d'où le titre, avoir comme acte révolutionnaire de planter du zaatar partout. Ces trois endroits en plus sont extrêmement équilibrés, c'est-à-dire que quand on les met ensemble, on a quelque chose de très beau qu'on t'a transmis, en fait, je trouve. C'est de les porter comme ça dans toute ton œuvre. Enfin, moi, en tout cas, c'est un endroit qui m'a énormément touchée et où tout de suite des images très fortes, en fait, se mettent en place. Le lien que ces trois personnes ont ou avaient à la poésie, tu le connais ? Est-ce que ce sont des personnes qui auraient pu lire autour de toi de la poésie ? Parce que parfois, en fait, on nous sème encore d'autres graines de nos avenirs, je trouve... notamment en partageant un poète ou une poétesse avec nous étant enfant ou...
C'est une question intéressante. En fait, il y a beaucoup de déni dans ma famille. C'est-à-dire que je ne connais pas finalement... je pense que je connais vraiment qu'une seule partie, celle qu'ils m'ont montrée. Donc je ne connaîtrai pas vraiment le rapport à la poésie. Je sais que ça a été des personnes bonnes, au fond. Enfin, ma grand-mère est toujours en vie, donc je suis heureuse de lui rendre aussi hommage. Beaucoup de déni dans ma famille, en fait. Et je pense que j'ai fait vraiment un travail de recherche dans les archives familiales, etc., pour trouver ce qui s'est passé. Mon père, à 16 ans, a été fait prisonnier pendant l'invasion israélienne du Sud-Liban. Il a pris les armes au sein d'un parti de gauche et a milité pour préserver son sud du Liban contre l'invasion israélienne. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison, ils l'ont torturé pendant 2 ans, donc de ses 16 à ses 18 ans. Et après cet événement-là, il a jamais parlé. Enfin, il en a jamais parlé. Quand je lui posais des questions, il était tout le temps dans le déni, etc. Jusqu'à ce que je le pousse à écrire ses témoignages, je l'ai beaucoup poussé. Donc, il m'appelait Rosa Luxembourg, il m'a dit « Arrête de faire telle Rosa Luxembourg » depuis que j'ai 6 ans. J'ai toujours cherché des réponses, en fait. Ma tante Fadwa, elle a eu une fin tragique aussi. En fait, il y a une bombe qui est tombée sur la maison et elle était handicapée. Elle n'a pas eu le temps de sortir. Donc, toute la maison s'est écroulée. Il y a juste un miroir qui est resté debout et ce miroir s'est fissuré. Donc, ils ont reconstruit toute la maison. Personne n'a jamais parlé de cet événement. Mais ce miroir est resté. Et moi, je posais tout le temps la question de pourquoi il est fissuré, ce miroir. C'est bizarre, un miroir fissuré à la maison alors que tout est neuf à côté. Et je pense que c'était le seul lien qu'ils avaient gardé à Fadwa. Et pour moi, c'était pas assez pour rendre hommage. Et ma grand-mère, c'est ma grand-mère. Elle a tenu toute la famille. Parce que je viens de deux familles. Je vais pas dire pauvres parce qu'elles sont très riches. J'ai jamais senti qu'elles étaient pauvres. Mais très modestes, financièrement pauvres. Mais elles ont toujours tout fait pour tenir la famille, quoi. Et ma grand-mère, c'est elle qui a porté toute la famille. Et je pense qu'au final, j'ai voulu leur accorder cette place dans mon recueil parce que il y a une grande lutte aujourd'hui au Liban pour la mémoire politique. Par exemple, nous, on a arrêté d'avoir des cours d'histoire à l'école à partir de 1946, en fait, le départ des Français. En fait, le Liban, c'était un mandat français jusqu'en 1943. Mais du coup, les derniers Français sont partis en 1946 et après, on n'a pas d'histoire. En fait, les cours d'histoire à l'école s'arrêtent au mandat français. Donc, c'est important d'archiver la mémoire des personnes qui nous ont précédées, et notamment quand elles sont résistantes, en fait. Donc, j'ai vu dans le fait de les placer dans ce recueil un acte politique, historique, en fait, pour pouvoir qu'ils aient une existence, par les mots.
Tu as quitté le Liban assez jeune et au final pas si jeune, c'est-à-dire que tu as le temps en fait d'avoir une vie là-bas, des souvenirs. Ce déplacement-là, il va aussi en fait faire partie de ton écriture. Tu vas beaucoup parler de toi comme en exil, comme une exilée. Tu parles aussi beaucoup des frontières que tu portes en toi. Enfin, il y a vraiment beaucoup ce langage-là en fait de, j'ai envie de dire, d'un certain entre-deux. En fait, au final, on visualise deux choses, deux pays, deux espaces-temps, deux espaces vraiment très clairs. Ça ne doit pas être si facile que ça, en fait, même dans une poésie où on peut imaginer tout à fait toute la richesse que ça apporte d'avoir ces deux endroits en soi. Parce que là, tu commences à avoir passé du temps ici en France, donc tu dois aussi avoir ingéré pas mal de l'histoire française. Mais pour autant, c'est le lien que et tu viens de le raconter, qu'a la France avec le Liban, enfin le passif, on va dire. Cet endroit d'exil, il doit pas toujours être très facile non plus à porter.
Non, l'exil est très dur. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a toujours un... Tu es toujours dans un entre-deux. Dans mon cas, dans un entre-trois. Je ne sais pas si ça se dit, mais du coup, je suis grecque aussi. Donc, ma mère est grecque, donc elle nous a appris le grec à la maison. Enfin, il y a toujours eu 3 pays à la maison. Quand je suis venue en France, j'ai fait un total déni du Liban. Je voulais renaître à nouveau en France en tant que Française. J'avais que des amis français, clairement. J'écoutais pas de musique, je mangeais pas libanais. J'étais là en mode, non, je veux un nouveau début. La guerre, la violence, c'est fini maintenant. Ça m'est retombé dessus après, évidemment. Et c'est pour la première fois de ma vie, c'est maintenant que je sens que les exils, l'exil, le sentiment d'exil se fond dans la poésie. Parce que moi, j'ai quitté ma maison la première fois en 2006 parce qu'elle a été détruite. Il y a une bombe qui est tombée à 90 mètres. C'était la première fois où j'ai quitté ma maison. Et c'était violent, du coup, bien sûr. Mais ça fait poser aussi la question de qu'est-ce que c'est, en fait, une maison. Et la deuxième fois où j'ai quitté ma maison, c'était quand j'avais 18 ans. Et là, c'était plus... Je ne sais même pas à ce jour si c'est volontaire ou pas. Si j'ai quitté la maison au Liban, si c'était volontaire pour venir en France, si c'était une fuite, je ne sais pas. Peut-être l'un et l'autre. Mais c'était la deuxième fois où j'ai quitté ma maison. Cette fois, elle était intacte, mais je l'ai quittée quand même. Et donc, en fait, ça pose vraiment la question de c'est quoi une maison, c'est quoi une maison. Et je pense que pour la première fois de ma vie, j'ai une maison, donc mon livre, où il y a les exils qui se fondent, les frontières qui fondent, en fait, dans les mots. Et en fait, finalement, j'ai eu cette réflexion l'autre jour, où je me suis dit, les pages de mon livre sont plus solides que les murs de ma maison. Et je suis contente de l'avoir appelé Zaatar, et je suis contente d'abriter aussi mon père dedans, qui est toujours au Liban, d'abriter ma tante, ma mère, ma grand-mère. Enfin, j'ai l'impression que j'ai une maison pour la première fois.
Ce qui est fou, c'est que je me suis notée que en fait ta maison c'était toi. Parce que quand on te lit, en fait, quand je te lis, moi j'ai l'impression que ta force, c'est ton corps, c'est tous les souvenirs, les tout ce que tu... En fait, tu... Alors, personnaliser son corps, oui, évidemment, c'est nous-mêmes. Mais moi, je l'ai vraiment lu, en fait, que tu utilisais ton corps pour vraiment, en fait, montrer qui tu étais. Quand tu dis que tu es la lance et le bouclier, enfin, que tu es née comme ça, lance et bouclier, enfin, ça fait vraiment de toi, en fait, la structure. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un espèce... Et qui, de ce fait, me rend très admirative, parce que je me dis, en fait, de tout ce dont on est en train de parler, qui sont quand même des choses qui, évidemment, quand on est né ici, Belgique, France, enfin, on n'a pas vécu ces endroits de trauma dont tu as parlé au tout début, de perte de maison totale, etc. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, en fait, c'est ton corps qui tient, en fait... toute ta vie, en fait, tous tes souvenirs, etc. Et c'est extrêmement fort. Et je pense que c'est aussi ça qui me faisait parler de maturité, c'est que j'avais l'impression, en fait, que t'étais un peu une sorte de... T'étais un château, quoi. Une forteresse, hein, quelque chose, en fait, qui s'est complètement redressé, en effet, grâce à la poésie, parce qu'on sent que c'est un endroit extrêmement constitutif de ta personne maintenant. Et sans enlever toutes les fragilités, les vulnérabilités dont tu fais preuve, en fait, dans le livre, mais tu mets tellement de tes organes, en fait, là-dedans. J'ai eu vraiment cette impression-là très viscérale de qui tu es, de te découvrir comme ça. Ce qui est très fort en tant que lectrice, il faut quand même se le dire. C'est des expériences de lecture extrêmement belles.
Je te remercie pour ces mots. Ça me touche beaucoup. Je pense que quand on a vécu une dimension de destruction totale aussi forte, je pense qu'il y a... Il y a une vision de la vie qui change, en fait, radicalement. Moi, je suis très nulle en déni. Parfois, j'ai très envie d'être dans le déni, mais j'y arrive pas. Et en fait, pour moi, la poésie, en fait, quand c'est remonté à la surface, c'est devenu une évidence que... Parfois, je me demandais, en fait, je disais à ma mère, mais je sais pas si c'est du sang qui coule dans mes veines ou si c'est des mots, parce que j'ai l'impression d'être totalement dans les mots tout le temps. Et oui, peut-être que comme ça, en fait, j'ai pris différentes formes dans les poèmes, et j'ai même pas eu le temps d'y réfléchir. Mais après, oui, je suis aussi une personne qui m'intéresse beaucoup à la politisation des corps, etc. Donc il y a aussi peut-être cet aspect-là de je dispose de mon corps de la manière dont je veux, surtout dans le sud du Liban où clairement les femmes sont vraiment pas encouragées à le faire. Et moi, ma grand-mère, par exemple, elle s'est mariée à 13 ans. Quand j'ai commencé à avoir 13 ans, elle me disait « Ah, ben, ce serait cool quand même que tu te maries et tout. » Et moi, je disais « Non, je ne vais pas me marier. » Déjà, parce que bon, je ne savais pas que j'étais lesbienne encore à ce moment-là et que j'étais au Liban. Mais en fait, j'avais un gros rejet des sociétés, enfin, de ce qu'on voulait que mon corps devienne. Et en fait, j'ai toujours dit « Moi, mon corps, politiquement, et je veux l'utiliser autrement. » Et c'est aussi pour ça que j'ai bien aimé l'utilisation de l'image « je suis enceinte d'une frontière ». Parce que moi, si je veux utiliser mon corps d'une manière, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai envie de contribuer à enfanter, et je dis bien contribuer, à enfanter un état nouveau qui soit plus à notre image. Parce que là, il est obsolète, en fait, l'état. Je suis enceinte d'une frontière, longue de 79 km. La taille moyenne d'un fœtus à naître est de 50 cm. De combien de mois, de combien d'années suis-je enceinte? Je ne sais plus. 1920, fécondation, je porte dans mon ventre des générations de femmes. Je porte celles de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, Jalila. Ce sont les femmes de mon pays qui ont porté la frontière. Les fœtus font en moyenne 50 cm, puis ils naissent. Ma frontière prend toute la place et elle ne naît pas. Elle se roule en boule parfois, elle donne des coups, parfois, mais elle ne naît pas. Quand vais-je enfin accoucher de ma frontière? La frontière de mon pays s'étend comme un arc sur les branches supérieures d'un grenadier planté par mon père, arrosé par ma mère. Un proverbe dit « Qui te présente une grenade épluchée t'aime d'un amour plus pur que le ruisseau. » Mon père ne m'a jamais dit « je t'aime ». Ses lèvres cousues par la guerre, il ne pouvait parler. Mais il m'épluchait des grenades. Une grenade par jour, en septembre. Dans chacune, des centaines de grains, des aubes nouvelles. Fadwa, avant moi, aurait aimé voir la mer. Elle envoyait les prémices dans son café. Le mar lui présageait les premières vagues, la sérénité, sur l'autre rive. Repose en paix, ma tante. Désolée pour la mer. Tes 18 ans ne t'ont pas sauvée de la barbarie. Je t'attendrai sur l'autre rive.
Ce qui est... D'autant plus touchant, c'est que j'ai vraiment l'impression en fait, que ton livre fait écho, beaucoup. Là, tu commences à avoir eu le temps de le porter en librairie, auprès de différents publics. Et est-ce que ce pressentiment que j'ai s'avère juste? Il y a quelque chose aussi d'un besoin de lire tes mots par d'autres personnes qui ont des parcours évidemment différents, mais qui se retrouvent dans toutes les questions que tu soulèves?
Oui, c'est la magie de l'humanité. Moi, j'ai toujours cru en la vie, bizarrement. même après toute cette destruction, j'ai toujours cru que la vie va être à mon écoute aussi. Et quand j'ai sorti Zatar, j'ai vu tous ces regards tendres, tous les mots doux et forts. Qui ont accompagné la sortie de mon recueil comme vraiment comme une nouvelle naissance. J'ai l'impression d'avoir accouché de mon livre, mais d'être entourée de plein d'autres petits parents, en fait. J'ai l'impression de le mettre vraiment... Il y a plein de personnes qui s'occupent de mon livre. Et les libraires, moi j'étais étonnée de tout. Enfin, même aujourd'hui, j'arrive pas à me rendre compte à quel point est-ce que... Enfin, me dire que Fadwa, le nom de Fadwa, qui était complètement dans le déni dans ma famille, aujourd'hui est à Lille, a été à Tours, était à Aix, même à Port-Vendre dans le sud, près de l'Espagne. J'ai dit, mais waouh, c'est dingue en fait. Et au final, je pense que de près ou de loin, on peut tous et toutes être touchés par la destruction ou... Enfin, on a tous quelque chose, une partie de nous qui a souffert et aussi on a besoin aussi de se rattacher à la vie, à l'espoir. D'ailleurs, Zaatar, pour moi, c'est un peu un secret, mais ça va plus l'être trop avec le... parce que je vais faire une annonce. Non, je rigole. Zaatar et espoir, pour moi, c'est le même mot. C'est exactement le même nombre de lettres et ça se finit de la même manière. Enfin, le même, ça rime. Et donc, en fait, c'est l'autre lecture de Zaatar, c'est l'espoir. Et je pense que c'est plus dans ce sens-là. Et je ne sais pas si tu as eu le même ressenti, mais Zaatar, c'est un livre fleuri. Enfin, c'est pas un livre sur la destruction. En tout cas, je veux pas qu'il le soit. Je veux qu'il soit à notre image, à nous qui avons survécu à tout ça. Et qui avons aussi fait de notre mieux pour construire une vie, construire une nouvelle maison, y planter de l'amour et de vivre, de s'accorder une nouvelle naissance en fait, au-delà de tout ça. Donc voilà, floraison.
Au-delà d'être un titre, Zaatar, c'est évidemment un élément constitutif de ton écriture, puisque donc en effet c'est ta grand-mère qui plante de ci de là en fait là où partout où elle peut. Dans ton cas c'est comme ça qu'on le lit, cette plante. Quand tu parles d'une poésie parfumée, enfin c'est vraiment un lexique que tu utilises et qui vient en fait arrondir, qui vient amener une volupté. Je trouve dans tes mots, et aussi nous emmène dans des territoires beaucoup plus doux, avec des choses extrêmement intimes de toi, de tes désirs, de ton corps, de tes espoirs, tu le disais toi-même, mais aussi de ça, des espoirs d'amour, de rencontres, etc. Et j'ai l'impression que, comme tout bon élément de cuisine, il fait vraiment le lien. En fait, entre toutes ces histoires, de se dire entre ta famille, le Liban, qui tu es, la force des poèmes, la résistance. En fait, le Zaatar, il est partout. Il se faufile comme ta grand-mère le souhaite. Ce lien-là à la plante, c'est quoi ton souvenir? Parce que j'imagine que ça n'a rien... Enfin, nous ici, on le trouve en combinaison toute faite, ou en tout cas, si tu connais ta recette familière, tu peux te le faire toi-même, mais on n'a pas ces champs de fleurs, ou ces... Je me rends pas très bien compte, en fait. Donc, est-ce que tu peux nous raconter le Zaatar de là où tu viens, en fait, ce que ça donne en image?
Alors, le Zaatar, déjà, je suis étonnée qu'on en trouve ici. Moi, quand j'ai envoyé mon manuscrit à Bruno Doucet, que c'était le premier titre, enfin c'est le titre que j'ai choisi, je me suis dit, il va jamais comprendre, ils vont jamais savoir ce que c'est le Zaatar. Et finalement, si, ils connaissaient. Le Zaatar, c'est vraiment pour nous... Déjà, c'est... On peut semer le Zaatar, mais c'est aussi une herbe sauvage. Donc, il y a vraiment cette dualité entre une herbe qui ne répond pas aux règles et une herbe qui est différente aussi quand on la plante. Le Zaatar, c'est une plante qui pousse dans des conditions d'extrême sécheresse aussi. C'est-à-dire que parfois, on peut voir du Zaatar pousser sur des roches, vraiment entre des roches. Et moins le Zaatar reçoit de l'eau, plus son goût est fort. Donc, meilleur il est. Donc il y a aussi ce rapport à peut-être aussi à la puissance d'une plante qui peut pousser comme ça. Le Zaatar, c'est le rapport à la terre, Déjà, j'ai choisi ce titre parce que je me suis dit que c'est beaucoup plus ce qui me liait au Liban qu'un hymne national. Donc, c'est aussi ce rapport à la terre telle qu'elle est, en fait. Parce que la terre n'a pas de nationalité. La terre, en fait, elle est, tu la prends dans tes mains, enfin, tu les frites. Le zaatar, c'est un parfum. Le zaatar, c'est un ensemble, toujours. Donc, soit un brin avec des petites feuilles, des grandes feuilles, soit ce mélange donc de thym qui est effrité à la main, qu'on mélange ensuite avec du sésame et du sumac, qui est en fait une épice rouge un peu citronnée, et du sel. Donc ça, c'est la recette basique. Donc, par sa définition même, le zaatar est une œuvre collective. Parce que c'est un ensemble de grains, c'est, voilà, qui sont... le Liban compte 4 millions de personnes sur place, et on est plus de 15 millions de personnes à l'étranger. Plus grand-chose dans notre état nous relie, parce que c'est aussi un état confessionnel qui divise les personnes selon leur confession, donc soit musulmane, chiite, musulmane, sunnite, etc. En fonction de ça, on vote, on ne peut pas voter. Moi, par exemple, sur mes papiers, je suis musulmane chiite. Je ne peux pas voter, par exemple, pour une liste chrétienne. Je dois voter seulement pour les listes musulmanes chiites du sud Liban. Donc, en fait, c'est très fragmenté. Donc, au-delà de tout ça, pour moi, le zaatar, c'est ce qui nous unit au sein d'une œuvre collective. Et je trouve que vraiment, c'est ce qui permet de nous unir. Quand une personne libanaise quitte le Liban, une des choses qu'elle a forcément dans sa valise, c'est du zaatar. Genre un petit bocal de zaatar que quelqu'un de sa famille a fait. Donc finalement, pour moi, c'est un aller-retour beaucoup plus doux, beaucoup moins connoté politiquement. Qu'un hymne national ou un drapeau, etc. C'est beaucoup plus doux, une plante. Et puis, c'est aussi... moi, ce que je voulais aussi mettre en avant, c'est le rapport méditerranéen au zaatar. Parce que c'est pas qu'une herbe... Enfin, on ne fait pas que du zaatar au Liban. On en fait en Syrie, on en fait en Palestine, on en fait en Tunisie, etc. Donc, en fait, c'est aussi au-delà des frontières d'un seul État. Donc, c'était important aussi pour moi de... Et j'oublie forcément des choses, mais le zaatar, ça fait sens. Et moi, j'en avais marre au Liban, quand j'y étais, de manger ça tous les jours. Parce que, en fait, c'est une herbe qui ne se périme pas. Donc, en fait, pendant la guerre, nous, on ne la mange pas juste en saupoudrant des choses. Pour nous, c'est un plat complet. On rajoute de l'huile d'olive, on en met sur du pain et on le mange. C'est notre dîner, par exemple, ou notre petit-déj. On met ça sur une pâte, on la fait cuire et ça s'appelle manouche. Et nous, ça nous a sauvés de la famine pendant la guerre et tout. Quand il n'y avait plus de courant, on avait du zaatar. Et il y a ça, et puis voilà, ce lien avec les personnes qui en ont... Enfin, les exilés qui en ont toujours à la maison. Donc finalement, pour moi, ça fait sens, le zaatar.
Tu parles en effet de cette douceur et de ce parfum. Est-ce que ça te fait penser, là, spontanément, à des poésies que tu pourrais nous lire plutôt dans ce sens-là ?
Bon, je vais commencer par celle-là qui est plus sur le début du zaatar. Baba, quand s'aimerons-nous ? Le vent. Après la guerre, mon enfant. Et quand s'arrêtera la guerre ? Quand le vent sera semé, mon enfant. Et nous poursuivîmes la récolte du thym sauvage, alias zaatar. La mer, café. Le mar, qui te gole aux dents, un avenir. La manouche au zaatar, dans les journaux emballés. Ananas top juice, bon jus pour les intimes. Fayrouz, nous te buvons comme du thé. Nos matinées sont des doux baisers sur la joue de la Méditerranée. Le zaatar en infusion. Viens, assieds-toi à ma table. Je t'accueillerai volontiers. Je te verserai du thé, tu me verseras tes mots. Nous boirons ensuite, toi à ta tasse, moi à tes lèvres. Viens, assieds-toi à ma table, parle-moi. Et si mon stylo se vide de son encre n'est crainte, pense à tous ceux tombés sous les bombes. Leur sang n'a encore servi à rien. Il sera l'encre de ton poème. Viens, assieds-toi à ma table, parle-moi. Donne-moi ta haine, j'en ferai un poème. Harb, harb, harb. Sha'r, harb. Sha'r, harb. Sha'r, harb. Sha'r, sha'r, sha'r. Sha'r, za'tar. Sha'r, za'tar. Sha'r, za'tar. Za'tar, za'tar, za'tar.
Merci. Merci beaucoup, Sophia, pour ce livre et pour cette belle rencontre.
Merci beaucoup d'avoir été un très beau terreau pour le Zaatar.
Le printemps des poétesses. La chambre sans mur, avec Morgane Hortin, aux éditions Nami.
Je dis premier livre de poésie. Après, est-ce qu'on peut vraiment dire que ce que tu fais n'est pas déjà de la poésie? Ce que tu as fait n'était pas déjà de la poésie?
Qu'est-ce qui est poésie? Je crois un peu ce qu'on veut, hein. Ce qu'on dit qu'il est en tout cas, non? Pendant longtemps, je pensais que j'écrivais des fragments et un jour, je me suis dit que c'était de la poésie et ça a fait la chambre sans mur. Donc voilà, ça dépend quel nom on met sur ce qu'on fait.
Mais c'est vrai que tu nous préviens dès le début du livre. Donc ce livre, c'est un recueil de 6 années. Oui. Donc de fragments, en tout cas d'écrits, qui vont te suivre dans ta vie émotionnelle, sentimentale, mm-hmm. amoureuse, mm-hmm. connectée, affective. Enfin, on peut utiliser énormément de mots pour vraiment grandir tous les sentiments qu'on va ressentir à la lecture de ton livre. Et pour autant, tu nous racontes une histoire. Mm. J'ai trouvé, enfin là tu dis fragments, on se serait attendu à de ce fait quelque chose de fragmenté, mmh. donc qui nous mettent un petit peu dans un sentiment un peu déboussolé comme ça, et pas du tout. En fait, tu nous racontes une histoire, on te suit vivre comme mmh. ça, alors ce qu'on imaginait ces 6 dernières années,
ouais.
donc bravo, ça devait, c'était intense ces 6 dernières années.
Très intense, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est vrai, c'est assez intéressant, c'est que donc c'est particulier pour un livre, parce qu'il a été écrit donc ces 6 dernières années. Donc, il y a 6 ans, j'étais pas du tout celle que j'étais aujourd'hui, ni je n'écrivais pas du tout comme j'écris aujourd'hui. Et j'ai quasiment pas retouché les textes, en fait. Donc, les textes du tout début, ils me plaisent plus vraiment. Mais comme tout ce que je fais est un travail autour de la mémoire, plus qu'un travail vraiment autour de la perfection de l'écrit, j'avais envie que les textes figurent quand même, même si on voit l'évolution, je pense, au fur et à mesure de mes réflexions, de mon écriture et tout ça. Et c'est vrai que c'était particulier de réunir, en fait. En fait, je pensais que ça ne racontait rien. Et j'avais peur de faire un recueil de poésie. Et quand je suis allée voir mon éditrice, je lui ai dit « J'ai plein de poèmes, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. J'aimerais en faire un recueil, mais est-ce que tu peux me dire si tu les trouves cohérents ?» C'était tellement cohérent, il n'y avait que moi qui ne le voyais pas. Et ça racontait vraiment une histoire, presque un roman, quoi. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur le fil rouge, en fait, du recueil. Même si je ne l'ai pas écrit, mais en tout cas, dans l'assemblage des poèmes, ça raconte quelque chose. Donc, je suis contente que tu l'aies notifié. Et en fait, quand on les a tous assemblés, mon éditrice m'a dit, voilà, c'est très joli, mais il manque quelque chose, je crois. Il manque peut-être cette dernière année où tu n'as pas du tout écrit. Qui était une année assez difficile. Et donc, le livre a été écrit vraiment en 2 temps. Donc, toute la première partie, c'est vraiment des poèmes que j'ai écrits ces 6 dernières années de manière très spontanée, qui n'avaient pas du tout vocation à être dans un livre. Et j'ai eu un breakdown un peu dans ma vie où je n'ai pas du tout écrit pendant 7 mois, mais j'étais incapable de le faire. Et donc, j'ai fait cet exercice très étrange où, en 3-4 mois, j'ai écrit les 7 mois où je n'avais pas du tout écrit, mais pour le livre. Donc, c'était quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait, en tout cas dans mon exercice poétique. Donc, voilà, c'est un livre aussi qui est intéressant dans le mouvement et le rapport au temps dans lequel il a été conçu, en tout cas.
Oui, et puis de se dire qu'en fait, tu donnes comme ça à lire des matériaux bruts.
Oui.
Et que de là, en fait, ensemble, ou en tout cas, à ce qu'on semble entendre, il y a quelque chose d'une construction de l'histoire. Exactement. Qui se fait. C'est assez beau dans la coopération créative.
Oui, et puis je pense que c'est assez révélateur de ma manière de travailler et d'écrire, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans une quête de perfection. C'est pour ça d'ailleurs que je publie beaucoup sur Instagram mes écrits quand ils ne sont pas du tout finalisés. Il y a beaucoup des poèmes qui figurent dans le recueil que vous pourrez trouver
de manière un peu moins bien écrite, par exemple sur Insta, parce que c'était mon premier G, et quand je les ai un tout petit peu retravaillés, ça a donné ce qu'ils étaient dans le livre. Mais j'adore, moi, quand c'est en process et quand c'est en progrès, en fait, les textes, et j'aime bien ça, et ça ne me dérange pas du tout que ce ne soit pas une forme parfaite. Peut-être que dans quelques années, je les reprendrai, que je les réécrirai mieux et que je ferai une nouvelle édition de ces poèmes. Mais du coup, dans ce sens, je trouve que c'est un livre qui me ressemble assez, dans ma manière d'appréhender en tout cas le texte, c'est assez brut.
Mais c'est vrai que dans l'exercice que tu sembles avoir travaillé sur ces 6 années, on s'imagine quelque chose de l'émotion qui déborde et du besoin d'écrire. Et donc de coucher vraiment sur le papier quelque chose qui t'encombre, qui déborde. Et cet endroit-là de la poésie, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement accessible, parce que je ne sais pas si tout le monde le fait, mais ça donne cette impression quand on se raconte, quand les carnets qui traînent, des petites notes, des choses qu'on
attrape. Les notes de l'iPhone, du téléphone.
Voilà, c'est ça, les notes sur le téléphone. Et pour autant, en fait, quand on a ce regard sur ton livre en entier, on se rend compte que c'est allé au-delà que juste l'émotion. Oui. C'est-à-dire que tu as fait un travail beaucoup plus profond. Quand on prend ce recul-là, on le remarque très fort, je trouve.
Ah bah, ça me touche beaucoup. Et moi, ça me touche. Et je crois que ça vient en écho. Effectivement, il y a eu du recul qui a été pris. Mais surtout, ça a été très guérisseur, en fait, pour moi, ce livre. Parce que c'était clore un chapitre de ma vie, vraiment. Et je pense que je n'aurais pas pu le faire autrement que par l'écriture. Bon, comme tout dans ma vie, hein, tout passe par l'écriture, de toute façon. Mais aussi par la... Je me suis dépossédée de ça, en fait. Je ne sais pas comment dire. Le fait d'avoir réuni tous ces textes dans un livre et qu'il existe maintenant et qu'il soit en librairie et qu'il soit lu par tout le monde, c'est un peu l'exercice de la dépossession, en fait, de mon histoire. Et ça, je trouve ça très guérisseur, en réalité, le fait que ça puisse entrer en écho avec d'autres existences et d'autres trajectoires et d'autres chagrins et d'autres émotions. Et surtout, la prise de distance, en fait, elle a été possible parce que je crois vraiment que... Vraiment, cette dernière année, elle a été très, très dure pour moi. Ça a vraiment été très dur. Et j'aurais jamais pensé que j'arriverais à l'écrire. Parce que vraiment, j'ai traversé 7 mois, ça ne m'était jamais arrivé, je ne pouvais pas. Alors que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours sauvé l'écriture, même dans les périodes où j'allais pas bien. J'ai toujours écrit des lettres dans mes journaux intimes et c'est quelque chose qui vraiment me sauvait. Mais là, c'est la première fois de ma vie, je ne pouvais décemment pas. Et en fait, d'y être arrivée... ça m'a fait me rendre compte que j'avais un grand privilège, et que c'est que quand on écrit, on peut poser la narration qu'on veut sur ce qui nous blesse. Et ça, c'est incroyable. Et c'est se réapproprier, en fait, quelque chose et le faire nôtre. Mais c'est comme reprendre un peu le pouvoir et le contrôle dessus. Et je trouve ça... moi, c'est quelque chose qui m'a guérie, en fait, vraiment. Et j'ai trouvé ça très empouvoirant, en fait, de poser la narration que j'avais envie de poser sur tout ça. Et tout à coup, tu te dis, bah voilà, mon chagrin, il est tel qu'il est, il est comme ça, il va de cette limite à cette limite, je mets les mots dessus que je veux, je le récite comme j'ai envie de le réciter, et de le faire, tout à coup il est aspiré. et donc c'est un privilège, en fait, de savoir écrire, parce que quand on sait écrire, on peut donner les narrations qu'on veut sur ce qu'on vit, et encore une fois, c'est un exercice de réappropriation, puis de se déposséder, et c'est bon, ça existe dans le monde, ça existe plus que seulement à l'intérieur de nous. Donc voilà, je suis contente d'y être arrivée, même si ça a été dur.
Bravo. Il y a aussi quelque chose de la perspective. En fait, c'est vrai que comme tu le dis, et c'est intéressant de ce fait de se rendre compte que tu n'aimais pas forcément les façons dont tu écrivais au début, parce que ça répond d'une certaine manière à certaines de mes questions où j'étais un peu déboussolée. Je me disais, mais c'est vrai que en fait, au tout début, il y a quelque chose d'un amour, puisque c'est de cela dont on est en train de parler, d'histoire d'amour. Et on est en fait sur une histoire d'amour dévorante et passionnelle, de ce qui est extrêmement... beau à lire, mais qui doit être extrêmement dur à vivre, dans ce sens où on a vraiment l'impression que vous vous mangez l'un l'autre, quoi, en fait. Et que comment on existe en tant que personne unique dans ces sentiments-là de dévoration. Mmh. Moi, c'était ma première impression. Et tout de suite, moi, il y a les alarmes, le couple toxique hétérosexuel qui se met en alerte en me disant, mais voyons, mais pourquoi, mais sauve-toi, mais non, tu existes seule. Enfin bon, j'étais dans une narration moi-même, toute seule, avec toi mais dans ma tête.
Tu peux.
Mais c'est vrai que, malgré tout, de le lire, ça nous rappelle aussi toutes ces narrations qu'on nous raconte sur ce que l'amour, ce à quoi l'amour doit ressembler. Et toi, en te relisant, tu as eu cette impression-là, c'est à cet endroit-là, peut-être, de se dire, est-ce que vraiment je me suis abandonnée, est-ce que j'existais vraiment ?
En fait, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le fait de me relire et de pas être en accord avec certaines choses, c'est que j'ai vraiment, en fait, tout ce sur quoi j'ai travaillé cette année préfiguré dans mes écrits d'il y a 6 ans. Et je vois le vertige de ma dépendance affective, par exemple, où je suis dans un truc très théorique. Hein, quand je vous en parlais il y a 5 ans, 6 ans, même sur Amour solitaire, je théorisais grave ça. J'étais vraiment en mode totalement raccord, tu vois, avec la pensée féministe et tout, avec les pensées féministes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a souvent des gouffres dans nos vies intimes avec ce qu'on arrive à théoriser, ce qu'on arrive à déconstruire. Mais après, l'appliquer, c'est difficile parce qu'en fait, on est embourbé dans des schémas qu'on a du mal à désarticuler, qu'on a du mal à désamorcer. Et même si on le sait, c'est hyper compliqué. Et je pense qu'avoir relu ces textes, ça m'a fait prendre conscience de la dépendance affective que j'avais, de l'addiction aussi. Je pense à l'amour romantique qui vient de ma famille, qui m'a été transmise, où j'ai l'impression que tout est vide, en fait, quand je suis pas amoureuse et quand on n'est pas amoureux de moi, et qu'il y a une peur de l'abandon qui est mes... Quand je me relis, du coup, j'ai de l'empathie pour moi parce que je me dis, je comprends. Et tout un truc aussi qui se dessine de moi qui essaie de manger la peine de l'autre. Et du coup, de pas du tout regarder la mienne. Ça m'a bien arrangée pendant quelques années. Mais tout ce truc aussi de la femme infirmière, en fait, qui est juste là pour prendre soin de la personne qu'elle aime, parce qu'en fait, j'ai été socialisée dans le soin aux autres, dans le soin aux hommes, dans le fait de sauver la personne de qui j'étais amoureuse, de devoir m'en occuper, de prendre soin de cette personne avant même de prendre soin de moi. Et en fait, ce qui fait que le chagrin d'amour, il est politique aussi, en fait. C'est qu'on est dans des relations hétérosexuelles où on a été socialisé comme une fille, on a été socialisé comme un garçon. Et donc, moi, je vais être dans un dévouement total. Et en fait, l'histoire se finit. Et là, tu te dis, putain, mais... Wow. Enfin, en fait, je me suis jamais occupée de moi, donc je sais pas trop comment le faire. Et je sais pas trop comment vivre sans être utile à personne, en fait. Et je sais pas comment être utile pour moi. Et là, en fait, t'as 30 ans et tu te dis, ok, bon, bah, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et là, c'est compliqué. Et là, c'est compliqué parce que c'est toutes tes blessures d'enfance qui ressortent. Tu comprends pourquoi tu réagis de telle manière. Donc, en fait, quand je relis ces poèmes d'il y a 6 ans, je trouve ça très beau parce que c'est très déconnecté, en fait. C'est tellement frais, c'est tellement spontané. Je trouve ça très joli aussi de vivre ça et d'être juste dans un truc de vampire où on a envie de manger l'autre et où je l'écris d'ailleurs, où je lui dis, même quand je l'ai en face de moi, je fais que lui dire, tu me manques, parce que c'est jamais assez. J'étais une boulimique, quoi. Donc maintenant, je passe par une phase de jeûne. mais voilà, et oui, c'est un livre qui parle beaucoup aussi du chagrin d'amour et de ce qu'il reste de nos amours quand on a appris à aimer que d'une certaine manière, quoi.
Mais ça va être beaucoup ça. Donc, le début, c'est vraiment ça. Et puis, ce qui est très, très, très beau et subtil, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, tu nous emmènes ailleurs. Et c'est cette fameuse guérison, cette fameuse connaissance de soi qui va... ça va pas être plus facile qu'un chagrin d'amour. Comme tu le disais, il y a quelque chose de très malmenant. Et j'ai noté, donc à la moitié de ton livre, c'est là où tu parles, où tu te maltraites, tu vois.
Oui.
Et j'ai trouvé... En fait, je me suis dit, ça résonne tellement avec ce que j'ai l'impression que ces amours, en fait, qu'on essaye de reproduire, où on sait pas très bien se protéger de l'autre, de comment... on doit rester soi-même des identités propres, tu vois, on ne doit pas se perdre dans l'autre. Sinon, en effet, il y a ce côté de qui suis-je, comment puis-je vivre à côté. Et on te suit. Et puis là, en fait, à ce mot qui, pour moi, est d'une violence assez forte, mais qu'on visualise. On ne se dit pas, c'est trop fort. On se dit, mais c'est exactement ça. C'est... Enfin, oui. Là, cet endroit-là du livre, tu t'es rendu compte que c'était à la moitié ?
Tout à fait. Ah oui. Ouais, ouais.
T'inquiète. Des fois, je revois des trucs que vous ne voyez pas. Alors oui, je me non. Dis,
mais pardon, là, je l'avais vu. C'était même pensé. oui, mais je suis contente que tu le relèves, ce mot, parce qu'en fait, personne ne l'a relevé encore, alors que pour moi, il a été très fondateur. Et en fait, je pense qu'on ne parle pas assez du chagrin d'amour et du désastre que ça peut être. Mais ça va avec toute cette culture, de toute façon, de dénigrer la vulnérabilité, de ne pas parler d'amour parce que c'est des sujets qui sont réservés aux filles et qui sont trop fleurs bleues, comme le fait de ne pas être sensible, de ne pas pleurer. Alors qu'en fait, le chagrin d'amour, ça peut être vraiment dévastateur. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites en psychiatrie, en psychologie. C'est la première cause qui pousse des gens qui ont un terrain dépressif à faire une dépression. C'est quand même, enfin, je veux dire, ça a tellement un lien à voir avec la santé mentale. Et en fait, ce que j'essaie de dire aussi dans ce livre, c'est que le chagrin d'amour, c'est pas que l'autre, en fait. C'est juste, t'as un chagrin d'amour qui arrive dans ta vie et tout à coup, ta santé mentale, elle est, tu comprends pas ce qui se passe et ça fait ressortir toutes tes blessures qui reviennent et c'est existentiel, en fait, comme problème. C'est-à-dire que tout à coup, t'es reconfronté à l'enfant que tu étais, tu es reconfronté à tes parents, à ce qu'ils t'ont donné, pas assez donné, à l'affection que tu as eue ou que tu n'as pas assez eue. Et en fait, c'est des moments de vie qui sont... ça dépasse largement le chagrin d'amour, en fait. C'est des crises existentielles, identitaires, qui sont tellement, tellement fortes. Et je pense que ce livre, ça parle plus de comment on survit à ça et on se guérit et comment on guérit aussi beaucoup de choses dans sa lignée familiale que de le faire, plutôt que simplement perdre l'autre, quoi. Mais c'est aussi une prise de responsabilité dans tout ça. Donc voilà, mais voilà. Et la maltraitance, c'est un truc qui est... Ouais, qui est... moi, je me suis fait du mal cette année. Je le sais. Maintenant, je... Et d'ailleurs, de l'avoir écrit, c'était fort. Et ça soigne aussi de le dire. Une fois qu'on le dit, on ne peut plus le faire.
Oui. Enfin, oui. En tout cas, c'est bien de le prendre comme ça.
Voilà.
C'est bien de se le noter comme
exactement.
Ça.
Exactement.
Ce qui appuie tout ce qu'on vient de se dire, c'est les vocabulaires et les façons, les images en fait, que tu invoques pour parler de tout ça. J'ai noté qu'il y avait encore une fois ce jeu en fait, des mots et de leur sens avec l'organique. Donc tu parles du cœur, tout comme le cœur qui bat mais qui fait mal. Oui. La langue qui fait du bien et qui peut aussi être très acérée, qui peut dévoiler cette maltraitance, etc. Et je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose, en fait, de très beau et en même temps de très simple, de montrer, en fait, que notre corps, que notre langue, que nos pensées, nos mots ne font qu'un tout et ne peuvent pas être séparés. En fait, quand tu parles autant du toucher, du cou, de la nuque, du lobe de l'oreille, mais qu'en même temps, après, tu parles du ventre, enfin, de la sensation dans le ventre. Tu vois, tu mêles vraiment tout le... Ouais, j'ai envie de dire l'organique, mais ça dépasse même, en fait,
tout
ça. C'est
trop beau, ce que tu dis. C'est très beau. C'est très beau et c'est très juste. Je pense qu'il y a un rapport très, très charnel dans ce livre. Je parle beaucoup du corps... qu'il soit en surface ou à l'intérieur. Et je pense vraiment que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que je pense que toute la première partie du livre, c'est vraiment le corps de l'autre que je décris, que j'ai envie de manger, auquel j'ai envie de m'assembler, de me coller. Et en fait, au fur et à mesure, il y a un peu un transfert où ça se resserre sur mon corps à moi. Et en fait, ça devient compliqué parce que j'arrive pas à en faire une maison, quoi. Et c'est beaucoup ça aussi, c'est la perte du corps de l'autre et le fait de réhabiter son propre corps et qui est difficile. Et je parle subtilement de TCA aussi beaucoup dans ce livre parce que c'est ce que j'ai traversé pendant cette période. Et c'est comment se réapproprier son corps en fait. C'est hyper difficile quand on ne le reconnaît pas, quand il subit des modifications, quand on perd le goût de s'alimenter en fait. C'est trop difficile et du coup... Tout à coup, je passe d'un rapport au corps qui était beaucoup dans le toucher au départ, dans la caresse, dans l'analyse, à un rapport qui est beaucoup plus organique. C'est vraiment les mollets, le cœur, mais le cœur, l'organe vraiment. Et voilà, et au final, qui redevient la vie avec les cheveux qui poussent. Parce que quoi qu'il en soit, quand nos cheveux poussent, ça veut dire qu'on est en vie encore. Il y avait cette image très belle où je me disais, ça va, ça pousse. Je suis encore en vie.
Mais il y a quelque chose, oui, de ce Alors, tu parles de l'alimentation, de se re-remplir, de vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose de du plaisir aussi dans cette à cet endroit-là. Et évidemment, moi, j'ai adoré en fait lire ton appel aux sœurs, ton appel à ta grand-mère, aux grand-mères précédentes, à ta mère. Enfin, des choses en plus que tu as la générosité de partager sur tes réseaux. Et donc, ce qui fait que moi, il y a des images, en fait, qui me sont venues immédiatement et de tout l'amour, en fait, qui s'est reporté à cet endroit-là.
Oui.
Et s'il y a bien un amour que j'ai envie vraiment de porter très haut et fort, c'est celui-là, c'est ces amitiés, ces endroits où, en fait, on ne s'arrache pas le cœur, en fait. On se protège.
Oui, et c'est ça m'émeut de t'entendre dire ça parce que moi je sais que c'est mes amis qui m'ont sauvée, mais qui m'ont vraiment sauvé la vie en fait. Et parfois c'est pas grand chose, hein, c'est juste on traverse des déserts et on est juste sur le canapé d'une amie et elle fait rien, elle fait juste sa vie et on voit juste qu'elle est vivante et on est en mode ok, elle vit, ben moi aussi je peux le faire et on attend juste que le temps passe et juste elle se retourne de temps en temps en disant ça va passer. Je suis en mode ok, ça. Et en fait, juste faire ça, c'est sauver la vie de quelqu'un, en fait. Vraiment, dans des moments où vraiment, c'est très difficile. Et j'avais envie de leur rendre. J'ai beaucoup écrit de poésie amoureuse, mais j'avais envie d'écrire de la poésie amicale. Et aussi de remercier... je sais que mes ancêtres femmes m'ont beaucoup aidée dans toute cette période parce que je ne crois pas en Dieu. Et je crois que j'aurais bien aimé croire en Dieu. Enfin, j'aurais aimé avoir la foi, en fait. Et donc, je me suis créée ma propre religion, quoi. Et donc, souvent, je priais mes ancêtres femmes parce que je me disais qu'elles allaient me venir en aide. Et j'avais envie de parler d'elles aussi dedans. Et en fait, dans ces moments, on développe un réseau affectif qui est totalement nouveau et qui est plus équilibré. Et de toute façon, moi, j'ai envie de militer pour ça. Enfin... J'ai plus envie, et je l'ai même jamais vraiment trop fait, mais quand même de donner mon affection à juste mon amour romantique, parce qu'on nous a tellement appris à faire ça, alors qu'en réalité, l'affection, ça se duplique, ça se multiplie, et que les réseaux amicaux, faut investir dedans, quoi, parce que ça nous brise pas le cœur, ça nous abandonne pas. Enfin, beaucoup moins, en tout cas. Oui, c'est beaucoup un livre qui parle de mes amis, en réalité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai des images très fortes que j'avais quand j'écrivais, où vraiment on dansait, et on se touchait les mains, et nos cheveux se touchaient. Et en fait, c'est juste trop... Ça te fait se sentir en vie, plus qu'aller faire l'amour, par exemple. Je sais que quand je danse avec mes amis, j'adore, on se serre, enfin... Et tout ça, j'ai trop envie aussi, cette poésie charnelle de l'amitié, je trouve qu'elle est importante.
Oui, et puis elle fait partie des nouveaux récits, en fait, de ce dont on a besoin, en fait, pour construire d'autres façons d'être en amour, d'être bien. Parce que à force de tout mettre, en fait, en effet, comme tu disais, sur l'élément couple, pour toutes les personnes qui n'y sont pas, mais comment on s'en sort, en fait, on ne s'en sort pas. Donc, il faut absolument envahir, en fait, les autres endroits de vie qui nous rendent vivantes.
Envahir les sphères intimes qui ne sont pas de l'amour romantique, quoi. Ouais.
J'ai quand même une question sur la poésie, parce que, enfin voilà, le printemps des poétesses, tout ça. ça m'intéresserait vraiment d'avoir ton avis sur, que tu m'expliques pourquoi, pour toi, la poésie est si douée pour raconter l'amour, la forme poétique.
Attends, j'ai envie de faire une réponse qui soit pas trop bateau, donc je réfléchis un peu. je pense qu'elle est très douée parce que c'est un jeu. Pour moi, la poésie, c'est un jeu. Et quand j'en écris, je m'amuse tellement. Et elle est si douée parce que déjà, même si on ne comprend pas le sens, juste musicalement parlant, ça raconte déjà quelque chose. Je sais que quand j'avais 18 ans, je lisais René Char et je ne comprenais rien. Franchement, c'était trop difficile. Mais je le lisais à haute voix. Et même si je ne comprenais pas le sens, juste la mélodie que ça faisait me racontait quelque chose de l'amour. Et je me souviens par exemple qu'il, dans un poème, il écrivait « Tu es plaisir, corail de spasme ». Franchement, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais ce corail de spasme, c'est tellement beau. Et pour moi, c'est très sexuel par exemple. Juste la sonorité est très sexuelle et je ne sais pas ce que ça veut dire, mais parfois, j'ai envie de dire « tu es plaisir, correct, ça se passe. Et ça, c'est une manière de dire l'amour d'une manière différente. Et je pense aussi que comme c'est un jeu, on peut user de plein de subterfuges. Donc, il y a plein d'images, il y a plein de sonorités. C'est très sensuel, en fait, comme genre. Et c'est malicieux. Pour moi, la poésie, elle est malicieuse. C'est comme l'amour, quoi. Enfin, moi, j'écris de la poésie comme je fais l'amour. Je m'amuse trop et je trouve que c'est le biais parfait. Et en même temps, on peut se protéger avec plein d'artifices, plein d'images, plein de métaphores. On a le droit de jamais être premier degré. Et c'est la manière que j'aime le plus de jouer dans l'amour. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais...
C'est une très belle définition. On va d'ailleurs voir que tu t'amuses malgré tout, malgré le sujet qui, même s'il est de plus en plus lumineux, c'est-à-dire que même, enfin, tout n'est pas résolu et à la fin du livre, mais il y a quelque chose quand même d'une progression lumineuse qui fait beaucoup de bien à la lecture.
Il me manquait 2 mois d'écriture, je pense. Vraiment. Ouais, je pense que ça, voilà, il manquait 2 mois d'écriture pour vraiment arriver
à le plein soleil.
Exactement, mais bon, prochain livre peut-être.
Voilà, c'est ça, progression en 2 tomes. Mais on remarque que, en fait, la plupart du livre est à la première personne du singulier, et tu as quelques endroits à la troisième personne, donc il y a le « elle » qui arrive comme si, en fait, et je pense que c'est carrément ton jeu de narration, de se dire, au moment où tu es prête, tu racontes peut-être ce qui t'est arrivé avec tellement de distance que ça devient une autre personne.
Waouh !
Non ?
Eh bien, écoute, je ne l'ai pas fait consciemment. Mais c'est hyper intéressant comme analyse et totalement probable de que mon inconscient ait fait ça, ouais. C'est une très belle analyse.
Bon, peut-être tu souhaites...
écoute, je relirai avec ça en tête.
oui, tu vas voir.
Oui, c'est possible.
Tu vas voir. Il y a vraiment quelque chose du elle.
Oui.
Elle dans son regard, elle. Et tout de suite, en fait, on sent que c'est plus du tout ce que tu vas vivre. Que, en fait,
c'est de l'observation.
Qui est un petit peu enfermée là-dedans. Bah, c'est tout à fait la période où tu parles d'être la femme enfermée, de ce que tu disais, de plus avoir ta maison à toi, etc. Et je pense qu'il y a un moment donné où, en fait, tu sors.
C'est de la dissociation presque.
C'est ça. Ouais. Mais qui accompagne, comme on le sait, beaucoup les traumatismes et les choses difficiles à gérer. Donc, je pense que là, il y a un endroit d'écriture.
Je ne l'avais même pas conscientisé, mais hyper intéressant.
Merci pour ça. C'est mon plaisir. on n'en a pas parlé avant et je m'en excuse, mais est-ce que tu accepterais de lire ?
Bien sûr, avec plaisir. Je te regarde et je ne sais plus vraiment si tu es toi, si tu es moi, si je suis toi, si je suis moi. Tu es en moi, je suis sur toi, tu t'enroules autour de moi, je ne connais plus rien d'autre que toi. C'est un jeu malicieux qui ne tient qu'à une lettre et qui m'autorise parfois à devenir toi, car je n'ai jamais tant su ce que signifiait d'être moi grâce à toi. Ça, c'est un vrai jeu, vous voyez, ça l'illustre bien, je m'amuse trop quand j'écris ça. On va un peu avancer... je crois que ce livre il parle beaucoup de la parole et du silence aussi, hein. On dirait que j'en ai pas fait le tour avec le livre Le Secret. Je sais pas si j'en aurais fait le tour un jour. J'ai envie de te parler comme on parle aux êtres robustes que l'on n'a pas peur de choquer. J'ai envie de te parler, non que dis-je, de te crier tout ce que je maintiens sous ma peau comme une punition, par peur du bruit, par peur de qui je suis. J'ai envie de te parler comme on parlerait aux êtres sous-marins si seulement un jour on y parvenait. J'ai envie de te parler en te jetant des morceaux de moi au visage. J'ai envie de te parler comme les gens qui ne pleurent jamais. J'ai envie de te parler que le monde s'arrête de tourner, que tu arrêtes de marcher, que la forêt se referme, que les fenêtres se réouvrent, que les draps soient changés, et que moi, nous découvrant pour la première fois, je te parle comme quand enfant je découvrais ma voix. J'ai envie de te parler que tu me parles et que l'on se parle et que jamais tu ne t'arrêtes de parler, sauf quand je te dirai que c'est à mon tour de parler. Si tu savais comme je hais faire la planche en plein été, mes larmes coulent dans mes oreilles et tout devient silencieux. Je ne peux plus écouter une seule musique depuis que tu es partie, je préfère remplir mes oreilles de larmes. Bientôt je ferai un bouillon, on n'y mangera rien que du chagrin, ce sera très salé, très peu épicé. Un peu comme toi et moi quand on a décidé que pleurer seul était mieux que parler. Quel est ce désert qui m'habite et que je ne parviens même pas à meubler de sable ? J'écris tout ce qui transperce ma chair, tout ce qui coupe mon appétit, l'acétone qui brûle mes doigts, le sel qui tire ma peau. J'écris tout ce que mon grand-père aurait préféré voir s'effacer, tout ce que ma grand-mère n'a dit qu'à la fin de sa vie. J'écris parce que je n'ai pas envie d'attendre. Je n'ai pas envie de mourir silencieuse. J'écris ce qui me maintient en vie, ce qui a le pouvoir de me tuer aussi. Et le simple fait de l'écrire détruit ce pouvoir. J'écris pour confisquer les puissances, pour ébranler les ascendants. J'écris pour voler le feu. J'écris ce qui est éreinté de n'avoir pu exister. J'écris tout ce qui court le long de la lame et qui perd l'équilibre au bord des falaises de l'oubli et qui flanche sur le précipice de ton existence. J'écris pour ne plus jamais avoir le vertige. Je me tiens sur le bord du monde, à la limite de mes inconstances, au bout du périmètre de mes douleurs. Des mains de femme agrippent le haut de mon pantalon. Une seconde de relâchement et le monde se retournerait et je me perdrais en son flanc. Mes sœurs qui rient la nuit sans répit, les cheveux lâchés, les rires emmêlés, les mains enlacées et qui préservent ma jeunesse quelque temps des éclats du temps qui presse. J'ai prié mes ancêtres femmes, l'univers, le soleil et toutes les générations qui m'ont précédée et portée. Je suis entrée dans la chapelle de la douleur et pour la première fois, je n'ai pas regardé les vitraux. J'ai fermé les yeux, joint mes mains, touché mes genoux et je n'ai plus parlé. J'ai simplement demandé comment repeupler un désert, comment habiter un corps abandonné, comment faire de la poésie un moyen de survie. La mélodie de mes cheveux qui poussent est la seule qui me chuchote que la vie survit là où tout n'est plus qu'oubli. Le croirez-vous, je suis en vie.
Merci beaucoup, Maureen.
Avec plaisir. Merci à toi.
Alors, heureuse, vous venez d'écouter un épisode spécial de la Franchie Podcast en compagnie de Maria Kakodiani, d'Amalia Ramanan Kiraina, de Sofia Karampali Farah et de Morgane Hortin.
La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien Fou pour l'univers graphique.
Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec la Franchie Podcast.